CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas revenir sur les élections européennes qui approchent, une visite rapide aux institutions de l'Union.
Oui, on va peut-être voir un petit peu quel est le fonctionnement de ces institutions. D'abord, quelles sont les principales institutions, leur rôle, et puis quelques éléments pour cette première chronique sur les élections européennes.
Sera suivi de la chronique écologique avec toujours Jean-Aubert Dufaux qui va nous parler aujourd'hui des enjeux liés à l'écologie locale qui deviennent du reste plus que prioritaires étant donné l'urgence liée à des impératifs climatiques et sociétaux associés à nos objectifs en matière de transition écologique.
Oui, et nous allons nous pencher sur ce sujet et essayer de comprendre un petit peu mieux les contours d'une stratégie qui relève un peu de ce que le gouvernement prône depuis longtemps, l'abandon aux collectivités de beaucoup de thèmes que les ministères ne veulent plus avoir à leur charge. Alors à tort ou à raison, cela a tout de même un impact sur les communes, car elles doivent prendre en compte des charges supplémentaires dont la facture peut également se retrouver dans nos impôts locaux.
Tout de suite, la chronique du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, avant d'aborder les institutions européennes, est-ce que tu peux quand même rapidement rappeler quelques chiffres et quelques dates sur l'Union européenne ?
Oui, bien sûr. D'abord, c'est 447 millions d'habitants, soit 6% de la population mondiale. Depuis sa création en 1957, à l'époque sous le nom de Communauté économique européenne, CEE, l'UE est passée de 6 États à 27. Alors c'est aussi 24 langues officielles, 3 alphabets différents, latin, grec et cyrillique. L'UE repose sur des valeurs dont la démocratie et l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, par exemple, y compris ceux des minorités. Donc, chaque pays doit respecter ses valeurs pour entrer dans l'UE. Par ailleurs, c'est un marché unique qui permet la libre circulation des personnes, comprendre celle des citoyens européens, des marchandises et des capitaux. L'ancêtre, donc, de l'UE, c'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui a été créée en 1952 entre l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'idée, c'est de mettre en commun et de contrôler ensemble, finalement, des matériaux qui servent à la guerre, hein, c'est que ce soit l'énergie, le charbon, ou que ce soit l'acier, hein, on est vraiment en plein traumatisme des deux guerres mondiales, et donc d'éviter qu'un pays s'arme contre les autres. Là, il faut souligner le rôle de Robert Schuman, qui est à l'époque ministre des Affaires étrangères en France, et de Konrad Adenauer, qui est donc le premier chancelier de la RFA de 1949 à 1963. Donc, 1957, création de la CEE, qui élargit entre les six la coopération à d'autres secteurs économiques et encourage les échanges. C'est le traité de Rome, le traité fondateur. 1973, le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni adhèrent. 1980, la Grèce, après la fin de la dictature en Grèce, hein, puisque sinon ce n'était évidemment pas possible d'adhérer à la CE. 1985, les accords de Schengen qui suppriment les contrôles aux frontières. Donc aujourd'hui, seuls la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Irlande et la Roumanie ont maintenu des contrôles aux frontières, c'est-à-dire qu'éventuellement, on doit présenter son passeport, c'est ça que ça veut dire. 1986, Portugal-Espagne, donc pareil, après la chute de Franco et de Salazar, nous sommes à 12 États. 1993, voilà la création de l'Union européenne. 1995, l'Autriche, la Finlande et la Suède adhèrent. 1997, c'est le traité de Lisbonne qui crée vraiment l'Union européenne. C'est aussi l'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, droits et libertés des habitants de l'UE. 2002, mise en circulation de l'euro dans 12 pays européens. Aujourd'hui, 19 États sur 27 ont remplacé leur monnaie par l'euro. Et avec la chute du mur de Berlin, l'entrée en 2004 de 8 pays d'Europe centrale et orientale, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Tchéquie, puis Chypre et Malte. 2007, Bulgarie et Roumanie. 2013, Croatie. Donc, on était à 28 États, mais avec le Brexit, le Royaume-Uni quitte l'UE en 2020, donc les 27 États. Il faut savoir que son candidat actuellement, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, la Turquie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. On a donc des États très différents. Notez que l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'UE, 83 millions, et que le plus petit État, qui est Malte, a 500 000 habitants simplement. Donc la devise de l'UE est « unie dans la diversité ».
Alors, tu n'as pas cité l'Ukraine.
L'Ukraine est potentiellement candidate, mais là, c'est plus compliqué.
Voilà.
Ça fait partie des questions et des enjeux de demain.
Alors, quelles sont les institutions de l'Union européenne ?
Alors, on a d'abord le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement au moins 4 fois par an. On parle souvent à ce moment-là de sommet européen. Ce Conseil européen, il définit les principales priorités politiques et l'orientation générale de l'action de l'UE. Il n'exerce pas de fonction législative. Son président est Charles Michel, qui est belge. Contrairement alors à la deuxième institution qui s'appelle le Conseil de l'Union européenne, qui est souvent nommé simplement le Conseil, qui réunit les ministres des pays de l'UE pour débattre et décider de la législation. Alors, les ministres de chaque pays siègent en fonction du sujet traité. Si c'est l'économie, c'est les ministres de l'économie, ou c'est l'environnement, ou c'est l'emploi et les affaires sociales. Alors, il est clair que le Conseil est l'un des deux organes législatifs. Clairement, sans les ministres des pays membres, rien ne peut se décider dans l'UE. Pour les votes dans de nombreux domaines, ça se fait à la majorité simple, sauf pour des domaines qui sont définis en amont, comme la fiscalité ou la sécurité, l'appartenance à l'UE, les finances de l'UE, l'harmonisation de la sécurité sociale et de la protection sociale, par exemple, où là, les décisions doivent être prises à l'unanimité. Dans ce cas, il est à noter que l'abstention n'empêche pas la prise de décision. Le président, c'est Josep Borrell, qui, lui, est espagnol. La troisième institution, c'est la Commission européenne. Elle est composée de 27 commissaires proposés par chaque gouvernement. Le président de la Commission est proposé par le Conseil européen et officiellement élu par le Parlement. Chaque commissaire est chargé d'un domaine d'action spécifique, l'économie, l'énergie par exemple. Les commissaires et le président constituent l'organe exécutif de l'UE. Leur mandat est de 5 ans. C'est vraiment l'organe de décision. Cette commission gère le budget, vérifie la bonne application de la législation de l'UE, rédige les nouveaux actes législatifs qui vont être ensuite examinés par le Parlement et le Conseil. La présidente de la Commission européenne est Ursula von der Leyen, elle est allemande. Le commissaire français est Thierry Breton. Il est commissaire européen au marché intérieur, c'est-à-dire que c'est lui qui est chargé d'établir ou de travailler sur les règles d'une concurrence équitable ou de garantir le bon fonctionnement du marché unique. Il faut rappeler que Thierry Breton a été ministre de l'économie, de l'industrie et des finances sous Jacques Chirac de 2005 à 2007.
Alors justement, le Parlement pour lequel les élections sont organisées, je le rappelle, le 9 juin prochain, comment fonctionne-t-il ?
Alors d'abord, c'est la seule institution élue au suffrage direct tous les 5 ans. Les principales réunions du Parlement sont appelées les séances plénières. Elles ont lieu 12 fois par an à Strasbourg, 6 fois par an à Bruxelles. En 2024, il y aura 720 députés à élire. Il y en avait 705 en 2019. Donc, bien sûr, les États ont un nombre différent de députés en fonction de leur population. Au sein du Parlement, les députés se regroupent par appartenance politique. Le Parlement partage donc le pouvoir avec le Conseil, le pouvoir législatif avec le Conseil. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, aucune législation n'est adoptée. Le Parlement élit le président de la Commission européenne et a le droit d'approuver et de dissoudre la Commission dans son ensemble. C'est bien sûr le Parlement qui adopte le budget de l'UE. Il y a actuellement 8 groupes politiques au Parlement, dont un de non-inscrits. Pour former un groupe, il faut au moins 25 membres. La présidente du Parlement est Roberta Metsola, elle vient de Malte. Alors, il faut rajouter à ces 4 institutions la Cour de justice de l'UE, qui siège à Luxembourg, qui est composé d'un juge par État membre et qui est chargé de veiller à ce que les textes soient interprétés et appliqués de manière uniforme.
Alors, plus concrètement, les élections européennes qui se dérouleront le 9 juin prochain, est-ce que tu peux préciser le mode de scrutin et surtout, quels sont les éléments nouveaux du contexte par rapport à celle de 2019 ?
Alors, la France disposera de 81 sièges. En 2019, elle en avait 74. À la suite du Brexit, elle en avait récupéré 5 et était passée à 79. C'est le deuxième contingent de députés derrière l'Allemagne qui dispose, elle, de 96 sièges. Il faut savoir que le minimum de sièges pour les plus petits États a été fixé à 6 et le maximum à 96. Avant chaque élection, on revoit le nombre de sièges par État en fonction des données démographiques les plus récentes. Ce qui fait que chaque liste doit proposer 81 candidats. C'est un suffrage universel direct à un tour. Les députés sont donc élus pour 5 ans. Les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Alors, le contexte nouveau depuis les élections de 2019, bien sûr, il y a eu le Brexit, qui n'est quand même pas une petite affaire, l'épisode majeur du Covid, la guerre en Ukraine, le conflit en Palestine, la montée de l'extrême droite dans de nombreux États européens, la crise liée à l'inflation et récemment les manifestations des agriculteurs. Mais aussi les catastrophes climatiques qui rappellent l'urgence des mesures à prendre. Donc ces élections européennes vont se dérouler dans un climat international et national tendu.
Merci beaucoup, oui. Monique Couteau. Tu veux dire quelque chose, Jean-Aubert ?
Il y a une chose aussi qui est importante de souligner sur l'Union européenne. Il y a un cas particulier qui est le cas d'Israël, qui, en 2009, si on se réfère à ce que Javier Solana, qui était le haut représentant pour l'Union des affaires étrangères et de la politique de sécurité, avait dit, il avait déclaré que la très forte relation entre l'État d'Israël et l'Union européenne équivalait à une adhésion de facto à travers la participation de l'État hébreu à de nombreux programmes européens. Parce qu'à l'époque, et encore jusqu'à aujourd'hui, mais c'est remis en question évidemment par la situation actuelle, l'État d'Israël était très proche en fait de formuler une candidature à l'Union.
C'est mal barré là.
Et là, c'est très mal parti aujourd'hui.
Merci Jean-Aubert. Si on a envie d'en savoir plus sur les groupes politiques au Parlement ou sur les enjeux tout simplement de ces élections, est-ce que par hasard tu as prévu une autre chronique, une chronique complémentaire ?
Oh bah écoute, je ne peux pas résister à cette demande. Oui, la prochaine chronique.
J'en étais sûr. Merci beaucoup Monique Couteau. On passe tout de suite à la chronique écologique avec Jean-Aubert Dufaux.
Terre à terre avec Jean-Aubert Dufaux.
La transition écologique est par essence devenue un des principaux objectifs de Bruxelles, message relayé plus ou moins par notre gouvernement, semble-t-il.
Oui, en effet, la transition écologique, elle est devenue un objectif prioritaire en raison du dérèglement climatique et elle est conduite par une puissante bureaucratie. Donc, si une très large majorité de citoyens adhèrent à un nouveau modèle de développement pour permettre cette transition, les moyens mobilisés, prenant l'habit de normes et d'interdictions, sont souvent éloignés des réalités locales. Alors, elles sont confiées à des bureaucrates de l'écologie, eux-mêmes poussés par la radicalité d'un certain nombre de collapsologues. Donc, cette transition écologique crée de fréquentes tensions chez ceux qui sont directement affectés par des régimes d'autorisation, de contrôle ou de surveillance de plus en plus stricts. Alors, la question de la légitimité de cette bureaucratisation de l'écologie entre une régulation des consommations et la préservation des libertés individuelles constitue le point de départ de cette réflexion.
L'écologie locale que tu mentionnais dans ton introduction est un peu le reflet d'une politique de financement, ou plutôt de renoncement, à aider financièrement les collectivités et communes en leur déléguant un grand nombre de thématiques et en leur donnant davantage d'autonomie en matière budgétaire.
Alors oui, et ce qui réduit le budget de fonctionnement des ministères d'un côté augmente celui des communes de l'autre. Et on voit alors poindre l'idée à terme de faire porter au local le poids d'une partie non négligeable de la dette nationale. Alors il s'agit ni plus ni moins d'une méthode de transfert de dette au sein d'un secteur public, en espérant que les investissements seront mieux gérés au niveau local plutôt qu'au niveau central. Donc dans notre cas d'école, nous parlons aujourd'hui d'économie locale, et ce transfert dans ce cas est plutôt positif. Alors en effet, l'écologie locale, elle offre des avantages significatifs en optant pour la production et la consommation locale. Donc on peut réduire ainsi l'utilisation des ressources et des émissions de CO2 liées au transport. De plus, l'écologie locale stimule l'économie locale en créant de l'emploi et en encourageant la production et la vente de produits, promouvant ainsi l'autonomie alimentaire. Alors, la capacité à faire confiance à l'échelon local sur laquelle a tablé le gouvernement est donc la clé de la réussite ou de l'échec de la grande transformation écologique de notre société. Donc, les citoyens sont très sensibles à l'environnement et ont des attentes variées en matière de transition, allant des économies d'énergie à la réduction de la circulation routière, en passant par le soutien aux acteurs privés engagés.
À trop déléguer, n'y aurait-il pas un risque de dérive ?
Alors oui, les dérives écologiques locales, elles peuvent prendre diverses formes et varier en fonction du contexte géographique et des politiques mises en place. On peut citer ce qui pourrait concerner notre commune si on n'y prête pas suffisamment attention. Alors il y a l'urbanisation incontrôlée. On sait que dans certaines régions, l'urbanisation rapide peut entraîner la destruction d'espaces naturels, la fragmentation des habitats, la perte de diversité, de biodiversité. Donc ces projets immobiliers mal planifiés ou contraints peuvent également entraîner une surutilisation des ressources en eau et une augmentation de la pollution dans certains secteurs des communes. Il y a la déforestation illégale ou non, donc la coupe abusive d'arbres pour l'expansion agricole dans certaines régions, ou alors pour augmenter le financement d'organismes tels que l'ONF, peut avoir des conséquences néfastes sur les écosystèmes locaux. On sait que dans les portions forestières autour de Chaville, on a une augmentation très forte de la température l'été lors des vagues de chaleur. Donc il y a la pollution des eaux, avec des rejets industriels ou collectifs, les eaux usées non traitées et l'utilisation excessive de pesticides par les particuliers dans leurs jardins peuvent contaminer les rues et les étangs locaux. Donc ça affecte ainsi la qualité de l'eau, la santé des écosystèmes aquatiques et la santé aussi de nos concitoyens. Donc il y a la gestion inadéquate des déchets. Donc on peut parler d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gestion des déchets tels que l'absence de tri sélectif, ce qui n'est pas notre cas. Le manque d'infrastructures de recyclage et ainsi de suite. Il pourrait y avoir aussi un étalement urbain excessif, à savoir une expansion non maîtrisée de zones urbaines qui entraîne un appauvrissement des sols, une augmentation du trafic routier et une perte de perméabilité. Donc il apparaît alors essentiel de mettre en place des politiques locales durables, donc il y en a certaines qui ont déjà été mises en place à Chaville, de sensibiliser la population et de promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement pour éviter ces dérives.
En ce qui concerne le côté positif de ce transfert, qu'est-ce que tu vois ?
Alors on peut s'appuyer sur de nombreuses initiatives qui ont émergé ces dernières années et qui sont d'autant de raisons d'être optimiste. Alors il y a l'agriculture urbaine, donc de plus en plus de villes encouragent la culture d'aliments locaux ou en utilisant des espaces vacants, des toits d'immeubles, des jardins communautaires, ça pourrait être une idée pour les nouvelles constructions à Chaville. Donc ces projets favorisent la production durable, renforcent les liens entre les habitants et leur environnement. Donc à l'heure où on parle de cuisine centrale à Chaville, la production locale sur peut-être les toitures des nouveaux immeubles autour de la gare de Chaville-Rive-Droite et d'autres, il y a d'autres plannings immobiliers pour être pris en compte. La réduction des déchets, alors il faut savoir que GPSO elle a mis en place un programme de recyclage avec des composteurs aussi collectifs et des campagnes de sensibilisation pour réduire cette quantité de déchets envoyés en décharge, ça c'est positif. En ce qui concerne la mobilité douce, notre ville elle prône une politique qui est censée encourager les transports écologiques tels que le vélo, la marche, les transports en commun. Alors il y a si la création de pistes cyclables a contribué à réduire la pollution, Le manque d'efforts au niveau du développement du réseau de transport en commun n'empêche pas la congestion routière le matin. Et la densification urbaine en cours va encore aggraver les choses si la décision de travailler de concert avec la région et le département afin d'avoir une plus grande régularité des moyens de transport n'est pas prise en compte rapidement. Donc la gratuité aussi des transports au sein de la commune et pourquoi pas de la région, et ce pourrait être un levier important, on en a déjà parlé maintes reprises, et il y a peu de communes aujourd'hui qui portent à la région et au ministère de la transition écologique ce sujet. Donc la consommation responsable, donc bon, les marchés de producteurs locaux. Donc je suis un petit peu déçu aujourd'hui que notre petit marché sur la place ne propose pas déjà des produits de proximité, si ce n'est pas de proximité immédiate, au moins de plus de production de la région parisienne. Les coopératives alimentaires, les circuits courts, donc on attend quelque chose. Alors soi-disant qu'on a, on n'est pas capable vraiment de vérifier près de la gare de Chaville-Rive-Droite un petit distributeur de produits locaux. C'est une initiative qu'il faut souligner, hein, qui a le mérite d'exister. Donc ça réduit hein, l'empreinte carbone qui est liée au transport des aliments, hein, ce type d'initiative. Donc il y a la protection des espaces naturels, hein, il y a des groupes de bénévoles et des associations qui se mobilisent pour préserver les parcs, la forêt en particulier, les forêts de fausses reposes et de meudons, et les zones humides locales. Hein. Ils organisent régulièrement des nettoyages, des plantations, des activités éducatives pour sensibiliser la population. Donc ça, on est vraiment dans l'associatif local, dans l'action. Il y a les énergies renouvelables au niveau local. Alors ça, c'est intéressant. Donc, la commune, elle investit dans des études préalables à la géothermie. Et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel hein, aujourd'hui. Pourquoi ? C'est parce que c'est une très bonne nouvelle pour nos concitoyens les plus fragiles, car cela permettra un vrai regain de pouvoir d'achat à terme, grâce à la réduction de leur facture énergétique. En théorie, hein, c'est censé être beaucoup moins cher. Et surtout, c'est une ressource énergétique qui est quasi inépuisable et qui est verte. Hein. Donc l'éducation environnementale aussi, dans les écoles, les bibliothèques, les centres communautaires, qui proposent des ateliers sur la biodiversité, sur la faune locale de temps en temps, le recyclage et d'autres sujets écologiques. Il y a aussi des acteurs associatifs qui sont partie prenante dans ces opérations, parce que cette éducation, elle joue un rôle clé dans la prise de conscience et dans l'action hein, pour nous.
Je ne sais pas si tu as parlé des AMAP. Ou si ça m'a échappé.
Non, alors les AMAP, pour moi...
Il n'en a pas parlé.
Non, j'en ai pas parlé, on en avait déjà parlé. Ça a fait l'objet d'une émission. Évidemment, ça fait partie pour moi, à la fois, ça touche à la fois la consommation responsable et ça touche aussi au circuit court, hein, puisque évidemment, on est clairement dans cette démarche écologique. Et on a un petit souci entre la mairie et nos AMAP, enfin notre AMAP,
oui, il y a un problème d'inclusion dans le système agroalimentaire.
Exactement.
Voilà, c'est tout.
Qui mériterait d'être prise en compte et travaillé
avec les AMAP.
Exactement. Tout voilà, et donc bon, c'est des initiatives qui sont là pour construire un avenir plus durable et résilient. Donc voilà. En somme, c'est une écologie locale, elle joue un rôle essentiel, je pense, vers un avenir plus durable.
Merci beaucoup Jean-Aubert Dufaux. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan Denuy sur Radio BCE.